médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. C'est le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui donne la priorité à la promotion de la santé communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé individuelle, il y a des... des zones de superposition. C'est une question simplement de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade? Un médecin vous dire mon malade s'appelle Eugénie, et l'autre médecin va vous dire mon malade surtout c'est défini comme la République populaire du Congo, il y a le Niger. Le Niger c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mon malade a un homme, un individu ou bien des individus.
D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées?
Bon, ça dépend des pays. Si on divise le monde en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les plus importantes diffèrent. Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin des maladies de la pauvreté. Les gens n'ont pas un bon environnement, l'environnement est malsain, donc c'est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes. De la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays-là-bas, vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau malpropre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies des microbes ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques, c'est parce que les gens vivent plus longtemps, ils attrapent des maladies de la dégénérescence, les maladies de la vieillesse. Il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on peut contraster le monde développé et le monde en voie de développement.
Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
Voilà. Il suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose. Il y a le VIH, mais vraiment, la COVID, ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur des enfants. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il des femmes enceintes? Quelle est la situation des femmes enceintes?
pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Nos sœurs, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, l'accouchement, la grossesse, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes, de sorte que sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que moi c'est ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement, parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la vie.
Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes?
Bien, nous n'allons pas inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. La priorité pour l'Afrique, au lieu de former des médecins, beaucoup d'infirmiers, ouvrir beaucoup d'hôpitaux, la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et psychique. Physique. Vous voyez, la malaria, je vous ai dit que malaria est le plus grand tueur. Mais malaria, ce n'est pas un nom africain. Paludisme, ce n'est pas africain. Ça sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria tuait beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait? L'Italie a simplement assaini l'environnement et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques, au 19e siècle, le choléra sévissait à Londres. À Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres? C'est pas parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, ils ont donné des facilités pour que les gens aient des toilettes convenables. C'est ça que nous devions faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine, mais c'est dans le génie civil. Assainissement du milieu physique. Augmenter l'accessibilité de la population à l'eau. Bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales. On a amélioré l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe. Maintenant, j'ai parlé aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Et souvent quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements. Assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires?
Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Il y a d'abord l'accessibilité physique. Aller au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de soins? 10 km? 15 km? Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bon moyen de transport. Oh là là, j'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des civières et par des gens qui marchent parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bon système d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes que moi j'ai vues, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle psychologique. Les gens ne croient pas en la médecine qu'ils appellent la médecine des blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des blancs, médecine des Chinois ou médecine des Noirs. La médecine est une à cause de certaines pesanteurs sociologiques. Les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital qu'ils appellent l'hôpital des blancs, même s'il y a des Noirs qui travaillent là-bas, mais c'est l'hôpital des blancs. Alors ils essayent la médecine empirique qui n'a pas toujours l'efficacité qu'on lui donne. Et alors, les gens meurent. Donc, il y a obstacle psychologique. Donc, ces trois obstacles suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
Merci beaucoup. Et quelle est l'importance ou quel est le rôle de la vaccination dans ce cadre de santé publique? Quelle est l'importance de la vaccination?
La vaccination est vraiment quelque chose de formidable. C'est facile et les résultats sont extraordinaires. Surtout pour les maladies de moins de 5 ans. Quand moi j'ai commencé la médecine, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à cause de la rougeole, à cause de la polio, à cause du tétanos. Dieu merci, j'ai vécu suffisamment de temps pour voir la disparition du tétanos néonatal. Si vous parlez aux médecins conformes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le tétanos néonatal? Beaucoup n'ont pas vu ça, grâce à la vaccination contre le tétanos. Il y a beaucoup de maladies qui ont disparu dans beaucoup de pays africains. Malheureusement, le Congo a encore quelques cas comme ça. La poliomyélite. Donc, la plupart de nos handicapés physiques que nous rencontrons en Afrique, ce sont des victimes de la polio. Mais maintenant, dans la population des jeunes, on voit très rarement des handicapés du fait de la polio. Et cela, c'est grâce à la vaccination anti-polio. Donc, la vaccination a fait reculer beaucoup de maladies.
Alors, la disparition des maladies, c'est donc synonyme d'une bonne santé. Pour terminer, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs d'une bonne santé?
L'individu doit être son premier et son plus grand médecin. Alors, ça signifie qu'il doit avoir un comportement favorable à la santé. Beaucoup de gens si je veux devenir un peu international, il y a beaucoup de gens qui creusent leur tombe avec leurs dents. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Alors, ils mangent du n'importe quoi et n'importe quand. Alors, ils attrapent des maladies dues à l'alimentation. Mauvaise alimentation ou alimentation excessive. Donc, c'est le malade qui doit avoir un comportement qui est le maître de sa propre santé. C'est son style de vie. Beaucoup de nos maladies viennent de notre style de vie. Donc, c'est là qu'il faut vraiment insister sur le malade qui doit se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, il faut d'abord se connaître. Nous qui avons les véhicules que nous appelons le corps, nous devrons avoir aussi le temps d'aller régulièrement voir notre médecin pour l'entretien avec le médecin, le check-up annuel. L'individu lui-même peut vraiment se prendre en charge. Et deuxièmement, il faut maintenant que la communauté locale, nationale, rentre aussi dans le programme de la promotion de la santé. Il faut que la communauté nationale, ou en tout cas locale, s'occupe de l'environnement, augmenter l'accessibilité de l'eau, de la population à l'eau, augmenter l'accessibilité de la population au système d'assainissement, aux toilettes propres, augmenter l'accès de la population à l'éducation, à l'information.
Je vous remercie, docteur.
C'était notre entretien avec le docteur Malunga Nyatuzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous parlons des bienfaits pour la santé du jeûne religieux. Nous aurons aussi quelques conseils d'un expert sur la façon de rester en bonne santé pendant le jeûne et quelques conseils pour moins saliver lorsque vous jeûnez. Ensuite, nous irons à la découverte d'un hôpital à Bruxelles en Belgique qui a un moyen unique pour répondre à l'anxiété hospitalière chez les enfants. Tout cela et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à tous et bienvenue sur Carnet de santé. Le jeûne vient de se terminer pour les chrétiens avec la fête de Pâques. Pendant ce temps, les musulmans du monde entier observent toujours le mois sacré du Ramadan. Ils s'abstiennent de manger, de boire et de fumer de l'aube au crépuscule. Certaines personnes jeûnent pour perdre du poids et non à des fins religieuses. Selon une étude publiée par les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis, certains types de jeûnes peuvent avoir des effets positifs sur la santé, comme le contrôle de l'hypertension, de l'inflammation et de la glycémie. Le jeûne peut également avoir des effets négatifs, notamment une perte de poids non désirée. Rendons-nous en Éthiopie, où la majorité de la population est orthodoxe orientale et musulmane. Kennedy Abbott nous montrera comment les gens pratiquent le jeûne et quels avantages ils en retirent pour la santé. Le récit est de Bosch Sanou.
La famille d'Abdul Kadir Abdou, qui vit dans le quartier de Figa à Addis Abeba, se réunit autour d'un repas après une journée de jeûne. Abdou dit qu'il opte pour des fruits et légumes au lieu de repas lourds pendant l'iftar.
Nous rendons grâce à Allah, puisque nous avons jeûné toute la journée. Manger des choses comme des fruits sera plus facile à digérer pour l'estomac. Après cela, nous aurons une prière. Il n'est pas conseillé de manger un repas lourd avant la fin des prières.
Les interactions sociales sont plus fréquentes pendant le jeûne. Les voisins se rendent visite pendant cette saison. Lors de notre passage dans la famille d'Abdou, nous avons vu que des voisins et d'autres invités sont venus se joindre à l'iftar. L'un d'eux est Teki Girmé, un chrétien orthodoxe qui a jeûné toute la journée. Les chrétiens orthodoxes s'abstiennent de manger pendant au moins 15 heures et lorsqu'ils mangent, ils ne consomment ni produits laitiers ni viande. Guirmé dit que sa santé s'améliore pendant la saison du jeûne, envisage à présent de s'abstenir complètement de la viande.
Au fait, quand j'étais jeune et que je n'avais pas commencé à jeûner, je pensais que je ne pouvais pas vivre sans viande. Cependant, après avoir commencé à jeûner, ma santé s'est améliorée. Maintenant, j'ai du mal à manger de la viande après la fin de la saison des jeûnes. Il y a plusieurs maux qui découlent de la consommation de viande. Je pense que Dieu a inventé le jeûne pour que nous puissions être en bonne santé.
Le docteur Blaine Amsalou, spécialiste en médecine interne, affirme que le jeûne a des avantages physiques et psychologiques.
Le jeûne a de nombreux avantages pour la santé. Les personnes en surpoids perdront quelques kilos. Le risque d'avoir des maux d'estomac est moindre. Le jeûne nous éloigne de l'alcool. Cela apportera également de la variété dans ce que nous mangeons et il y aura moins de viande et de produits laitiers. Nous avons tendance à avoir une alimentation équilibrée pendant le jeûne, ce qui présente des avantages physiques et mentaux. Cela nous aide à adopter un meilleur style de vie.
Le docteur Amsalou conseille que même après la fin de la saison de jeûne, les gens doivent faire attention à ce qu'ils consomment afin de ne pas risquer leur santé. Elle dit que leur habitude alimentaire devrait être bénéfique pour leur santé.
Quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé? Nous en apprenons davantage grâce à Zaitoum Mahmoud Aminou, diététicien à la Kano State School of Health Technology.
Si nous examinons les avantages pour la santé, certains chercheurs ont indiqué que le jeûne aide à perdre du poids, en particulier pour les personnes qui le souhaitent. C'est un très bon moyen pour quelqu'un de réduire son poids, étant donné qu'un individu va couper ou réduire sa propre consommation de calories. En outre, le jeûne aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Ainsi, le niveau de sucre dans le sang est stabilisé pendant le jeûne en raison de la réduction de la sensibilité à l'insuline causée par les graisses présentes dans le sang. Le jeûne stimule les fonctions cérébrales. Il a été constaté que les fonctions cérébrales ont augmenté ou amélioré chez les personnes qui pratiquent le jeûne. Lorsque nous rompons notre jeûne, nous devrions prendre des dattes fraîches. Si nous n'avons pas la possibilité de nous procurer des dattes fraîches, nous devons prendre des dattes sèches. Si vous ne pouvez pas vous en procurer, vous pouvez prendre de l'eau. Ainsi, si vous regardez les enseignements de la religion, vous comprendrez que l'objectif principal est de reconstituer le glucose et l'eau que nous avons perdu pendant la période de jeûne. Il est donc très important pour quelqu'un qui rompt son jeûne de prendre quelque chose qui rétablira son propre niveau de glucose et d'eau. Par exemple, nous pouvons prendre des fruits et des légumes riches qui contiennent beaucoup d'eau, comme la pastèque. La pastèque est un très bon aliment qui contient beaucoup d'eau et dont le niveau de glucose peut améliorer ou reconstituer le glucose dans notre sang. La première chose à savoir est que si vous voulez jeûner et que vous savez que vous avez des problèmes de santé, vous devez demander l'avis d'un médecin. Vous devez consulter votre médecin pour savoir si vous pouvez jeûner ou non, car certaines personnes, par exemple celles qui souffrent d'un ulcère ou du diabète, courent le risque de jeûner sans avis médical. Il est donc toujours recommandé de demander l'avis d'un médecin lorsqu'on veut jeûner et que l'on sait que l'on a des problèmes de santé. C'est très important.
C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, dont l'invité était le docteur Malunga Nyatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez